Peut-on faire de la psychanalyse avec les bébés? Et comment peut-on penser les concepts de la métapsychologie avec les bébés? Les deux topiques freudiennes renvoient à des instances qui sont le fruit d'un processus achevé de différenciation intrapsychique. Comment les utiliser chez le bébé, être par nature encore indifférencié et inachevé? Dans cet épisode, Bernard Goltz nous expose ses arguments pour une troisième topique. En s'appuyant sur sa grande expérience des thérapies conjointes parent-bébé, il nous propose ici une métapsychologie du lien pré-objectal primitif, une topique périnatale de la représentation mentale du lien intersubjectif avant même la différenciation des instances et la découverte de l'objet. Bernard Goltz est pédopsychiatre, psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France et professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité. Il a longtemps dirigé le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et actuellement, entre autres activités associatives, il préside l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et il a fondé récemment l'Institut contemporain de l'enfance pour promouvoir un soin et un prendre soin psychique des bébés, des enfants et des adolescents en référence à la psychanalyse, à la psychopathologie et à la pédagogie avec des ouvertures sur le monde des arts et de la culture du fait de la dialectique qui existe entre la créativité thérapeutique et la créativité artistique. Les trois domaines dans lesquels il s'est surtout impliqué sont le développement précoce du bébé, les troubles du spectre autistique et la problématique de l'adoption. Il est donc tout particulièrement centré sur la question des liens. Je suis Julia-Flore Alibert et je suis heureuse de vous présenter Talks on Psychoanalysis, le podcast consacré à des sujets d'actualité sur la psychanalyse à travers le monde avec la voix des auteurs originaux. Cette série de podcasts, publiée par l'Association Psychanalytique Internationale, ou IPA, fait partie des activités du comité de communication de l'IPA et est produite par l'équipe de rédaction des podcasts de l'IPA. À la direction de cette équipe, Gaetano Pellegrini. À la post-production, Massimiliano Guerrieri. Pour rester informé des dernières parutions de podcasts, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Bernard Goltz et je voudrais d'abord remercier Julia-Flore Alibert et Gaetano Pellegrini qui, au nom de l'IPA, m'ont proposé de faire cet enregistrement dans le cadre de Talks on Psychoanalysis. Je suis pédopsychiatre et psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France. J'ai longtemps été en responsabilité du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Je suis maintenant professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité et j'ai fondé assez récemment l'Institut contemporain de l'enfance. Par ailleurs, je préside l'association Piclerloxy France qui s'intéresse aux soins précoces apportés aux tout-petits et je suis président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Pour ce document, j'ai choisi de parler de la troisième topique, de faire un plaidoyer pour une troisième topique avec l'idée d'une représentation intrapsychique du lien intersubjectif avant même la découverte de l'objet. Cette troisième topique nous est très nécessaire pour travailler avec les sujets non différenciés, les bébés, ou présentant des pathologies archaïques telles que l'autisme, par exemple. Les deux topiques proposées par Freud, en effet, à savoir la première, inconscient, préconscient, conscient, et la deuxième, ça, moi, sur moi, qui ont été formalisées à partir de 1920 pour la deuxième, renvoient l'une comme l'autre à une conception du psychisme organisée en des lieux psychiques ou instances qui sont le fruit d'un processus achevé de différenciation intrapsychique. Ces deux topiques sont à l'évidence toujours d'actualité et l'on sait la dimension très heuristique qu'elles revêtent d'un point de vue clinique, d'un point de vue technique et théorique quand on travaille avec des sujets différenciés, des enfants, des adolescents et des adultes. En revanche, comme je viens de le dire, quand on travaille en périnatalité avec des bébés ou avec des sujets encore mal ou peu différenciés, tels que les patients présentant des pathologies dites archaïques et notamment autistiques, ces deux topics, appartenant à une métapsychologie par essence intrapsychique, leur utilisation se trouve immanquablement sujette à caution. En effet, si le bébé ne nous impose aucun renoncement à nos repères psychanalytiques habituels, la théorie des pulsions, la théorie de l'étayage et même la théorie de l'après-coup, son inachèvement fondamental, sa néothénie, son immaturité foncière, tant physique que psychique, exige de nous que nous repensions à son propos le point de vue topique qui demeure par essence strictement intrapsychique. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une troisième topique, qui serait une topique de la représentation mentale du lien, avec la double idée, paradoxale en apparence, mais seulement en apparence, que d'une part les liens primitifs pourraient être investis avant même que le sujet et l'objet soient clairement délimités, et que d'autre part cette représentation préobjectale soit la condition sine qua non de l'émergence de l'objet. C'est en tout cas une proposition que nous faisons, en sachant que cette hypothèse d'une troisième topique a déjà été envisagée par certains auteurs, mais dans d'autres champs que celui du développement précoce. Quelques mots donc sur la topique au risque de la dyade et de la triade. Un nourrisson, tout seul, cela n'existe pas. Chacun connaît cette fameuse phrase de Winnicott qui implique que le bébé ne peut être appréhendé en dehors des liens qu'il noue avec son environnement premier. La psychologie, la psychopathologie et la psychiatrie du bébé sont en plein essor depuis quelques décennies et nos connaissances se sont beaucoup développées en ce qui concerne les fonctionnements dyadiques et triadiques. Ceci étant, qui dit dyade ou triade se situe ipso facto dans le registre interpersonnel et non pas dans le registre intrapsychique. On sait que les conditions historiques de la naissance des deux grands corpus théoriques que sont la psychanalyse et la théorie de l'attachement, font que la première se trouve centrée fondamentalement sur l'intrapsychique, tandis que la seconde l'est sur l'interpersonnel. Ces deux corpus théoriques sont nés en effet dans des contextes historiques extrêmement différents. La fin du XIXe siècle pour la psychanalyse, avec l'énigme du « dedans de l'objet », je rappelle que la même année, en 1895, on a eu la découverte des rayons X par Röntgen pour la curiosité pour le dedans du corps et l'écriture des études sur l'hystérie par Freud et Breuer qui ont marqué le début de la réflexion métapsychologique, donc cette immense curiosité pour le dedans de la psyché. La psychanalyse est donc née à la fin du 19e siècle, alors que la théorie de l'attachement est née à la fin du XXe siècle avec la problématique de la sécurité et de l'insécurité interpersonnelle pour cette théorie très, très marquée par tout ce qui s'était passé pendant la guerre, des déplacements, des bouleversements sociaux, des exils, des exodes, etc. La psychanalyse se voit donc tout naturellement marquée par la question de l'intrapsychique, tandis que la théorie de l'attachement, quant à elle, se trouve centrée par la question de l'interpersonnel et par les thématiques de la sécurité. Les débats ont alors été très vifs entre les tenants de la psychanalyse et les partisans de la théorie de l'attachement, et l'on sait que Daniel Vidlocher a pu proposer l'idée que ces conflits ont peut-être été le fruit d'un rendez-vous manqué entre la psychanalyse anglaise et la psychanalyse hongroise, qui, à travers le concept d'amour primaire de Michael Balint, aurait pu permettre de dépasser l'opposition entre le caractère primaire de l'attachement et le caractère secondaire de l'amour selon la psychanalyse. Quoi qu'il en soit de ces rappels historiques, on sent bien l'impasse qui serait celle d'une topique intersubjective, dyadique ou triadique, incluant un bébé dont le monde interne n'est pas encore suffisamment différencié pour que la métapsychologie le concernant puisse être véritablement intrapsychique. Alors j'en viens à la question de la représentation du lien avant même la représentation de l'objet. Cette proposition est beaucoup moins paradoxale qu'il n'y paraît, surtout si l'on prend en compte la genèse des liens en périnatalité. Quand on parle, comme il est classique et fréquent de le faire, de représentation d'objets, ce concept apparaît souvent comme trop global, trop macroscopique, et il est sans doute utile, désormais, de le décomposer en plusieurs niveaux distincts, au moins trois. La représentation de la place de l'objet est une chose, la représentation des liens à l'objet en est une autre, et la représentation enfin de l'objet lui-même, en tant que tel, en est encore une autre. Parlons d'abord de la place de l'objet. La place de l'objet possède en effet probablement son propre niveau de représentation et plusieurs arguments peuvent venir étayer cette idée. Ceux d'entre nous qui travaillent en pouponnière, par exemple, savent bien que des enfants placés dès la naissance en vue d'être confiés à l'adoption semblent disposer très vite, si ce n'est d'emblée, de l'idée de ce qu'est un parent. Certes, au bout de quelque temps, ils peuvent avoir l'occasion d'observer les visites de parents d'autres enfants, mais la question est plus profonde, à mon sens. Le bébé néotène a peut-être une sorte de représentation innée de l'autre qui lui est nécessaire, de la place de l'autre secourable, du Nebenmensch de la psychanalyse, sans lequel il ne peut pas vivre et dont il a fondamentalement besoin dans le cadre de la situation anthropologique fondamentale décrite en France par Jean Laplanche. C'est probablement cette place de l'objet, ce que Bion a voulu évoquer avec son concept de préconception. Quand Bion parle du sein, il dit parfois « le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être ». C'est une phrase assez curieuse. « Le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être ». Cette phrase étrange mais stimulante ne signifie peut-être pas qu'il le cherche sur le corps de la mère en fonction des traces mnésiques qu'il a de chaque tétée ou en fonction d'une attirance instinctuelle par l'odeur du lait, mais plutôt qu'il le cherche à cet emplacement même dont il aurait une sorte de proto-représentation, en sachant que pour Bion, la proto-représentation ne peut devenir une représentation effective qu'en rencontrant dans la réalité externe l'objet qui lui correspond et qui vient ainsi la fixer par l'expérience émotionnelle de cette rencontre. Cette place de l'objet, cette représentation de la place de l'objet, c'est aussi ce qu'envisage Sylvain Missonnier quand il parle du registre du virtuel à propos du premier chapitre de la vie que représente la grossesse. Il parle même de relation d'objets virtuels, ce que l'on entend généralement en pensant aux représentations que les parents peuvent se faire de leur enfant encore à venir et qui correspondent en partie à ce qui a été décrit sous le terme d'enfant imaginaire. Mais peut-être faut-il aussi envisager que le fœtus, de son côté, a peut-être également la possibilité d'investir une proto-représentation de ses parents à venir, proto-représentation de fonction, bien entendu, plutôt que de telle ou telle caractéristique statique, plus ou moins figurative. Dans le domaine artistique, littéraire ou culturel, on pourrait enfin citer parmi bien d'autres illustrations possibles de l'importance de la place de l'objet, le livre fameux de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, livre dans lequel le héros passera toute la fin de sa vie à scruter jusqu'à en mourir l'horizon, au lieu, à l'endroit, à la place où selon lui pourrait peut-être surgir une improbable armée ennemie. Il faut évoquer aussi le livre de Dorian Leader, ce psychanalyste qui est très féru d'art et qui a écrit des livres sur la psychanalyse et l'art, notamment un qui s'appelle « Ce que l'art nous empêche de voir ». Et dans ce livre tout à fait riche et intéressant, il raconte que la Joconde, le tableau de la Joconde a été volé en 1911, on l'a retrouvé 2 ans plus tard dans le garage d'un personnage un peu étrange qui bien sûr n'avait rien pu faire de ce tableau, difficile à monnayer. Et Dorian Leader, document historique à l'appui, nous apprend que s'il y a beaucoup beaucoup de monde pour aller voir la Joconde au musée du Louvre, il n'y a jamais eu autant de monde qu'entre 1911 et 1913 pour aller voir la place vide de la Joconde, la place qu'on avait laissée vide de la Joconde volée pendant ces 2 années où elle avait été dérobée. Voilà, la question de la place de l'objet est donc en soi très, très mobilisatrice et je citerai encore la place temporelle de l'objet dans l'œuvre de Borges. J'en viens maintenant au deuxième niveau, après la place de l'objet, qui est la représentation des liens à l'objet, qui constitue un autre niveau de la représentation d'objet. Avant même ce débat que j'aborde aujourd'hui, il y a très longtemps déjà, Serge Lubovici, en 1960, avait eu cette phrase un peu énigmatique qui a fait couler beaucoup d'encre, « L'objet peut être investi avant d'être perçu ». L'objet peut être investi avant d'être perçu. Si on pense au jeu du forte-da, au jeu de la bobine, décrit par Freud chez son petit-fils Ernst, la ficelle, en tant que lien, pourrait-on dire, est investie avant la bobine elle-même. Une première lecture de la phrase de Serge Lubovici peut être faite selon l'axe de l'équilibre narcissique et objectal, en ce sens que l'objet peut être investi alors qu'il est encore perçu comme une partie de soi, comme un objet narcissique, avant d'être véritablement perçu comme un objet objectal, c'est-à-dire un objet extérieur à soi-même. Une autre lecture de cette phrase peut également se faire en lien avec la théorie de l'attachement, et là aussi avec l'idée qu'on peut s'attacher à un objet qui est encore éprouvé comme indistinct de soi, ce qui donnerait aux premiers attachements la valeur subjective d'auto-attachement. En tout état de cause, cet investissement de l'objet, avant même sa perception en tant que tel, apparaît en quelque sorte comme l'inverse de la pulsion des objectalisantes étudiée par Green en tant que pulsion de mort. André Green. La désobjectalisation de l'objet serait en effet, pour cet auteur, la conséquence d'un investissement dévitalisant, alors que pour Serge Lebovici, c'est l'investissement vitalisant du pré-objet qui préparerait l'objectalisation de celui-ci dans la perspective d'une pulsion de vie. On aurait là une sorte de pressentiment de l'objet. Pour approfondir cette question de la représentation des liens, il faut dire un mot donc du concept de représentation d'interaction. Le concept d'interaction, emblème de la théorie générale des systèmes, se trouve aujourd'hui, on le sait, au cœur de toutes les études et de toutes les recherches concernant le bébé et les débuts de son développement, et le concept d'interaction renvoie bien évidemment à la question du lien. On parle souvent de l'observation des bébés par les adultes, selon la méthode Lester Bick par exemple, mais on oublie de dire que le bébé est lui-même un formidable observateur des adultes qui prennent soin de lui, un formidable observateur de ses caregivers. Le bébé nous observe attentivement. Il est un grand clinicien de nos affects et de nos émotions. Cette observation de la mère par le bébé et son travail d'évaluation de ses différences par rapport à d'habitude commence dès le premier semestre de la vie par le biais du système de l'attachement. Le bébé envoie en effet des signaux et il inscrit dans sa psyché une sorte des moyennes des réponses maternelles en termes d'attachement, et lors de chaque nouvelle rencontre interactive avec elle, il va alors mesurer l'écart entre la réponse maternelle présente et les représentations moyennes qu'il s'est forgées d'elle, représentations moyennes qui ne sont autres que ses futurs « internal working models » ou « modèles internes opérants » décrits par Inge Beserton. Dans le deuxième semestre de la vie, cette observation de la mère par le bébé se fait par le biais de l'analyse du style interactif de la mère, soit de la qualité de son accordage affectif décrit par Stern, Daniel Stern, plus ou moins uni ou transmodal, plus ou moins immédiat ou différé, plus ou moins atténué ou amplifié, dont l'intériorisation intrapsychique se fera au niveau de ce que Stern a appelé des représentations d'interaction généralisée. Si la mère n'est pas comme d'habitude, parce qu'elle est anxieuse ou déprimée par exemple, le bébé se trouve alors introduit à la tiercéité, puisque mieux vaut incriminer un tiers que lui-même à l'origine de ces modifications maternelles. Cette question des différences de l'autre par rapport à d'habitude infiltrera, on le sait, la vie durant toutes nos histoires d'amour, dans la mesure où c'est la question de la différence de l'objet aimé avec ce qu'il est d'habitude qui suscitera toujours en nous la crainte d'un tiers rival, à la manière dont, en tant que bébé, nous avions été introduits à la tiercéité par cette question d'une variabilité de l'image et du fonctionnement de notre mère. Comme on le voit, le système de l'attachement, tout comme le système de l'accordage affectif, permettent donc au bébé de se représenter et d'inscrire psychiquement les variations des réponses maternelles, ce qui correspond sans conteste à une certaine forme de représentation des liens avec l'objet, mais qui ne disent rien des caractéristiques formelles de l'objet lui-même. Est-ce que la mère est blonde ou brune, grande ou petite, grosse ou mince? Il s'agit bien là d'un investissement des variations des réponses maternelles et non pas encore d'un investissement de la mère en tant qu'objet. De ce fait, on peut effectivement parler d'un investissement du lien pré-objectal, et c'est bien ce que je souhaitais souligner ici, investissement qui précède l'investissement de l'objet lui-même. Pour en terminer avec ce niveau de la représentation des liens avec l'objet, ajoutons que Geneviève Haag, grande observatrice de bébés, grande thérapeute d'enfants autistes, a souvent dit que d'une certaine manière, le bébé se faisait un portrait d'abord abstrait de sa mère, un portrait rythmique fondé sur la représentation de ses interactions dynamiques avec elle avant de pouvoir s'en faire un portrait véritablement figuratif. Ceci rejoint, selon elle, les hypothèses d'André Leroy-Gourhan, spécialiste de la préhistoire, selon lequel L'art abstrait serait en fait beaucoup plus ancien dans l'évolution de l'humanité que l'art figuratif, comme en témoignent certaines œuvres picturales découvertes dans des grottes bien antérieures à celles de Lascaux, qui, elles, recèlent des tableaux, des peintures figuratives, des scènes de chasse, des scènes de pêche, des scènes de guerre, des scènes des empreintes de mains, de corps, de pieds. En quelque sorte, la modernité serait un retour à l'art abstrait et dans l'histoire de l'art, comme dans l'ontogénèse, en quelque sorte. Dernier niveau, c'est la représentation de l'objet en tant que tel. C'est finalement ce niveau qui est celui auquel on pense intuitivement quand on parle de représentation d'objet. C'est celui qui correspond en particulier au concept d'image mentale, au sens classique du terme, image de l'autre, représentation du visage, de lieu, d'objet. L'idée proposée est ici et que ce niveau de la représentation de l'objet serait finalement plus tardif que les deux précédents, dont il serait une sorte de résultante ou d'aboutissement. À partir de là, si une métapsychologie de la dyade ou de la triade ou une topique intersubjective apparaissent comme peu soutenables car trop interpersonnelles, peut-on aller vers une topique périnatale de la représentation mentale intrapsychique du lien? En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous sommes de ceux qui pensent qu'il est possible de s'occuper de cliniques périnatales et de très jeunes enfants en ayant la légitime prétention de demeurer psychanalyste dans ces conditions particulières, en sachant que théoriquement c'est la dimension métapsychologique, la dimension topique qui sont probablement les plus mises à mal par le fœtus et le bébé. Comment penser en termes métapsychologiques la dyade avec cette difficulté centrale que représente incontestablement le passage de l'interpersonnel à l'intrapsychique? Est-on en droit de supposer que le système père-mère-bébé se trouve en lui-même porteur de la dynamique apte à transposer la triadification interpersonnelle en triangulation intrapsychique? Rien n'est moins sûr en réalité, et c'est toute la question de l'intériorisation qui se trouve alors posée. C'est donc bien une métapsychologie du lien qui nous est ici nécessaire, laquelle ouvre, je le redis, sur une troisième topique qui permettrait de dépasser le clivage entre interpersonnel et intrapsychique. Qu'entend-on cependant par métapsychologie du lien? S'agit-il d'une métapsychologie strictement intrapsychique ou s'agit-il plutôt de ce que l'on pourrait peut-être appeler une métapsychologie intersubjective? L'instauration de l'appareil psychique, qui est toujours, qu'on le veuille ou non, une représentation du lien dans le lien et par le lien, se joue à l'interface de l'intersubjectif et de l'intrapsychique. Et les psychothérapies conjointes, parents-bébés, favorisent tout particulièrement le double mouvement d'intériorisation et de spécularisation qui sous-tend le passage du registre interpersonnel au registre intrapsychique. Peut-on penser que la présence d'un tiers, le ou les co-thérapeutes, est ici indispensable et de ce fait le dispositif de thérapie conjointe parents-bébés dont nous avons la pratique à l'hôpital Necker enfants malades serait précisément à même de fournir à la dyade et la triade un cadre faisant fonction de tiers observants et participants et capable d'induire ce mouvement de psychisation des interactions périnatales comportementales? Le cadre des thérapies conjointes offre en tout cas, nous semble-t-il, un paradigme fécond pour mettre à l'œuvre et légitimer cliniquement le concept de troisième topique. On sait que les thérapies conjointes parents-bébés se sont développées selon trois axes principaux, les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, les guidances interactives par vidéo-feedback et les thérapies de l'attachement, plus développées dans le monde anglo-saxon qu'en Europe. En tout cas, généralement, il s'agit d'un setting avec un ou deux co-thérapeutes, des séances une fois par semaine ou tous les 15 jours, avec, si possible, un pré-transfert positif et des situations dans lesquelles les projections ne sont pas trop psychotiques et permettant de se centrer sur un focus symptomatique. Dans ce cadre des thérapies conjointes, on peut alors imaginer que c'est le travail psychique du tiers, je le redis, soit du thérapeute ou des co-thérapeutes, qui joue précisément un rôle déterminant pour ouvrir la voie de l'investissement de ce lien préobjectal. S'il est sans doute encore trop tôt pour savoir si ce cadre d'action apportera des éléments de réflexion décisifs, il est toutefois d'ores et déjà plausible d'affirmer que le système père-mère-bébé visé par les thérapies conjointes périnatales fournit une préfiguration anténatale puis une figuration postnatale de la triangulation intrapsychique encore en devenir chez les fœtus bébés concernés et que de ce fait elles peuvent prétendre au statut de psychanalytique dès lors qu'on interprète les matériaux recueillis à son niveau en référence au concept de transe ou d'intergénérationnel. Pour conclure, je voudrais dire quelques mots, enfin, sur la question de la demande à la lumière de cette topique du lien. L'investissement préobjectal du lien rend compte, en effet, du mouvement vers le dehors et avant même que l'autre soit repéré comme tel, ce qui est clair dans le cadre des traitements d'enfants autistes. Et je voudrais donc dire un petit mot de ce que j'appelle aujourd'hui la demande intransitive. Compte tenu du processus permanent de construction et de déconstruction de l'objet, la demande intransitive ne serait pas adressée à l'objet, mais elle témoignerait d'ores et déjà d'un investissement de ce lien préobjectal dont nous essayons de traquer la représentation intrapsychique grâce au concept de troisième topique. Quand on travaille avec les bébés, on sent bien qu'ils ne nous demandent rien à nous en tant que nous-mêmes, mais on sent bien quand même qu'ils demandent quelque chose. Ce type de demande intransitive me semble essentiel à entendre spécifiquement avec les parents pendant la grossesse, les bébés, avec les enfants autistes et à certains égards avec les adolescents. Bien entendu, les enjeux contre-transférentiels de ce type de demande sont importants puisqu'il s'agirait alors pour le thérapeute d'accepter de régresser lui-même en deçà de son statut d'objet pour retrouver et entendre le lien non objectalement adressé dans le cadre des pathologies archaïques. C'est bien d'ailleurs en cela que la discussion de cette troisième topique du lien et de la métapsychologie polymorphe de ses traces dans le transfert et le contre-transfert peut inspirer le psychanalyste dans sa clinique quotidienne de tous les âges de la vie. Pour conclure, si dans le développement, le lien est premier tant au niveau intersubjectif qu'intrapsychique, l'absence de lien n'est certes pas la liberté, tant s'en faut, mais ce qu'on pourrait appeler l'aliénation. Avec un A privatif. Je vous remercie beaucoup de votre attention.